France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe, a choisi d'évoquer un ensemble de lettres écrites au lendemain de la Terreur, dans lesquelles leur auteur, poète et théoricien allemand, entend appeler à une révolution esthétique. Parce que derrière toute revendication politique et sociale ne se joue pas qu'un changement de loi, mais surtout de manière d'être, un autre partage du sensible. Ces lettres sur l'éducation esthétique de l'homme sont signées Schiller et c'est Jacques Rancière qui nous en parle.
Pourquoi suis-je ici, enserré, enchaîné, contraint, alors que je porte en moi un sentiment infini? Ces vers sur lesquels se termine le drame de Démétrius et qui sont à peu près les derniers vers que Schiller ait écrits définissent exactement la nature de ce poète romantique qui apparaît à certains égards comme le poète romantique par excellence. Schiller restera éternellement jeune parce qu'il est essentiellement le poète de la jeunesse. Et alors que le drame de tant d'hommes est d'avoir renié leur jeunesse, la pureté du destin de Schiller est d'avoir perpétué dans tout son éclat, dans toute sa fin d'absolu, dans toutes ses exigences ardentes et généreuses tout au long de sa vie, le feu même de l'adolescence. Son romantisme était de la qualité la plus pure et la plus franche. Aucun artifice ne le diminuait. Il n'était entaché d'aucune littérature. Son hymne à la joie, proclamé par les chœurs beethoveniens de la 9e symphonie, est le chant de victoire de cet optimisme que les romantiques avaient hérité du 18e siècle et qui tiendra en échec, chez les plus grands d'entre eux, la tentation du désespoir, elle aussi caractéristique du romantisme.
Bonjour Jacques Rancière.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, professeur émérite. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'essais sur le monde ouvrier et sur l'esthétique. On peut citer votre livre « La mésentente politique et philosophique » qui vient de reparaître aux éditions La Fabrique. Mais on peut aussi citer « Le partage du sensible » également disponible aux éditions La Fabrique. Vous avez choisi, je l'ai dit, de nous parler de Schiller. Que pensez-vous de cette présentation de 1954, du 16 avril 1954, heure de culture française de Schiller? Je vous ai vu sourire.
Bon, disons, c'est une autre époque. C'est une autre époque de la radio, une autre époque du rapport, peut-être à cette époque. Bon, à cette époque, effectivement, Schiller représente le romantique, l'optimisme romantique. Bon, bah, depuis, en quelque sorte, le mot même de romantisme s'est déplacé maintenant, finalement. On n'appelle plus Goethe et Schiller des romantiques.
Mais on les appelle comment?
Je sais pas si on les, évidemment, ils ont perdu en quelque sorte une appellation spécifique, mais on appelle romantique, bah, disons, ceux qui viennent justement après, quoi. À savoir, bon, Novalis, Hölderlin, en même temps, ce sont des gens qui ont lu Schiller de très très près, bon. Et donc, oui, effectivement, il y a une espèce d'emphase qui correspond à l'image de Schiller, à savoir, bon, c'est la 9e symphonie. La 9e symphonie, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle l'hymne à la joie, et au départ, c'était un hymne à la liberté.
Comment vous expliquez d'ailleurs ce passage-là? C'est-à-dire que, voilà, on a aussi mal lu Schiller, on en a fait quelqu'un de joyeux, on a entendu d'optimiste, le poète de la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là?
Bah, le poète de la jeunesse, bon, disons, le problème, vous savez, c'est le couple Goethe-Schiller. Quoi. Goethe a vécu très vieux, Schiller est mort, il n'avait pas 50 ans.
Alors, je précise pour les auditeurs, il est né en 1759, il est mort en 1805, donc effectivement, pas très vieux.
Pas très vieux, et puis bon, effectivement...
Et très ami avec Goethe.
Oui, à cette époque, ils viennent de se rencontrer, donc les lettres sur les questions esthétiques de l'homme sont publiées dans la revue qui, justement, qu'il a créée avec Goethe. Voilà, donc En quelque sorte, c'est précisément le moment où celui qu'on pourrait imaginer comme le poète de, justement, de la jeunesse, de la révolte, disons, rencontre Goethe. C'est le moment où, au contraire, Goethe, en quelque sorte, va instaurer quelque chose comme une espèce de culte, bah, disons, de la beauté, du classicisme. Voilà. Donc, par conséquent, il est clair que par rapport à l'image de l'éternel adolescent romantique, bon, on n'en est plus exactement là. Et en même temps, peut-être que, le problème, c'est qu'effectivement, Schiller reste quand même essentiellement connu chez nous par l'hymne à la Shoah, quoi.
Et vous, quand vous découvrez Schiller, quel âge avez-vous, Jacques Rancière? À quel moment le découvrez-vous et quelle idée vous en avez au moment où vous le découvrez? Est-ce que vous êtes aussi dans un peu cette image un peu figée du romantique optimiste?
Non, d'abord, j'ai absolument aucune image.
Bon, vous n'avez pas de préjugés?
Non, c'est-à-dire que, bon, à l'époque, donc je suis pas un adolescent, c'est pas la fièvre adolescente. J'ai quand même quelque chose comme une quarantaine d'années ou à peu près.
Donc, oui, donc pas l'adolescent.
Donc c'est l'époque où je dois être en train de soutenir, où je vais soutenir, où je viens de soutenir, ma thèse. Et puis, bon, il se trouve que, voilà, j'avais aucune idée, pas grand-chose, disons, comme idée de Schiller à l'époque. Et bon, je tombe là-dessus. Bon, beaucoup de choses dans ma carrière sont le fait du hasard, quoi. Savoir, je tombe sur un texte pour des raisons diverses, sur une archive, qui tout d'un coup vraiment crée un déclic, quoi. Et là, voilà, c'est bon. J'allais beaucoup à l'époque, je passais souvent devant cette librairie d'occasion qui se trouvait, bon, rue des Écoles, en face de la Sorbonne. Je trouvais un tas de choses, et notamment un jour, je tombe là-dessus. Lettre sur l'éducation esthétique de l'homme, j'avais aucune idée de ce qu'il y avait là-dedans, quoi. Et je l'ai lu. Effectivement, pour moi, ça a été un choc. Pourquoi ça a été un choc? Je venais de terminer ce travail sur l'émancipation ouvrière, qui a été publié sous le titre de La Nuit des Prolétaires, mais qui d'abord était une thèse, donc une thèse de philosophie un peu bizarre, parce que finalement, il n'y avait pas du tout de thèse philosophique là-dedans. Mais en revanche, il y avait une espèce de sensibilité à la dimension, je dirais, intellectuelle et, on peut dire, esthétique de l'émancipation ouvrière. C'est-à-dire que l'émancipation ouvrière, c'était pas simplement, disons, le désir d'être libéré des chaînes du capital, le désir de vivre mieux, le désir de prendre en quelque sorte la revanche sur la puissance qui vous opprimait. C'était le désir d'une autre vie, qui veut dire aussi un accès finalement à certaines formes de jouissance qu'on peut appeler esthétique, qui était précisément refusée aux prolétaires, parce que le prolétaire, c'est pas seulement quelqu'un qui travaille, mais c'est quelqu'un qui en quelque sorte remplit un certain rôle social et auquel par conséquent on confère en quelque sorte, on peut dire, voilà, ils font les qualités qui correspondent à ce rôle, quoi, voilà. Et puis, bon, c'était... je venais quand même d'avoir cette espèce d'expérience de plonger dans des textes dont on attendait qu'ils parlent de l'atelier, de la lutte, etc., mais qui parlaient...
C'était quoi le genre de texte? Parce que vous avez dit, Jacques Rancière, c'était pas très philosophique. C'est quoi? C'était votre thèse qui était pas très philosophique?
C'était pas très philosophique au sens où il n'y avait aucune thèse. C'était une thèse, mais il n'y avait aucune thèse, quoi. et donc, voilà, c'était essentiellement fondé...
Vous avez eu
fondé...
une bonne note à cette thèse sans thèse, alors?
J'ai une bonne note. Oui, on a toujours une bonne note. C'est rare qu'on soit collé à sa thèse. Ça a été bien accepté. J'étais plongé dans des textes ouvriers, donc des années 1830-1840, mais avec aussi une surprise, à savoir que lorsque j'ai commencé à travailler sur certaines archives, et notamment sur les archives de l'ouvrier menuisier Gogny, on s'attend à trouver des histoires d'ateliers, etc. Puis voilà, puis je tombe sur des lettres entre deux ouvriers saint-simoniens, l'un qui raconte la journée dans la communauté saint-simonienne, lui, Gogny, qui raconte un dimanche à la campagne, qui décrit la nature, etc., tout ça. Donc voilà, tout d'un coup, des gens qui s'occupent vraiment de tout à fait autre chose que ce qui est censé être leur affaire, à savoir l'atelier, la lutte éventuellement.
De la cadence, du travail, de l'épuisement.
Donc j'ai été très, très, très frappé par cette espèce d'aspect en quelque sorte esthétique, à savoir, la conquête du regard, c'est-à-dire ne pas être simplement des gens qui travaillent avec leurs mains, mais des gens qui regardent le monde, qui peuvent avoir un regard désintéressé, le fameux regard désintéressé de Kant, vous savez, le jugement esthétique désintéressé, à savoir, on s'occupe pas de la chose elle-même, mais simplement de son apparence. Donc j'étais un peu là-dedans, et puis c'est le moment où est sorti, un livre qui a fait évidemment époque, qui était La Distinction de Bourdieu, quoi. Qui disait, le jugement esthétique, ça c'est un truc pour esthète, pour intellectuel, etc. Il y a deux sortes de goûts, il y a le goût de nécessité, c'est les, C'est les prolos, c'est les gens du peuple, quoi. Et puis, il y a le goût de distinguer des esthètes. Voilà, donc...
De ceux qui ont du capital culturel.
Capital culturel, voilà. Donc, tout est... Et donc, disons, il y avait une espèce de tension, de contradiction très, très fondamentale dans cette espèce de partage en deux, quoi, qui en même temps renvoyait un petit peu, justement, précisément les gens du peuple de leur côté, quoi, avec leur goût, leur manière de manger, ce qu'ils mangeaient, leur façon de se tenir et tout ça. Vous savez, il y avait des photos où vous voyez les gens du peuple, c'est tous comme ça, un peu avachis, quoi, un peu, bon, voilà, ils ressemblaient au peuple, quoi. Et j'avais eu affaire à des ouvriers qui ressemblaient pas au peuple, quoi. Et bon, voilà, donc, si vous voulez, j'étais dans cette espèce de tension et un peu de colère contre, disons, finalement, cette espèce de vision sociologique qui, finalement, ramène toujours les gens à une espèce d'éthos, de manière d'être, dont, précisément, ils cherchent à se séparer, quoi. Et c'est là-dessus que je suis tombé sur Schiller. Tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, voilà quelqu'un qui, finalement, exprime philosophiquement ce que moi, j'ai pu ressentir. Sur
l'intuition que vous aviez eue, à la fois face à votre critique de Bourdieu, c'est-à-dire ce malaise, et en même temps, cette découverte dans les lettres d'ouvriers de plaisir désintéressé face à un paysage, face à un dimanche à la campagne.
Oui, absolument. Tout d'un coup, donc, voilà, je me suis dit, voilà quelqu'un qui, en quelque sorte, je dirais, me donne raison. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir raison, ça n'a jamais d'intérêt.
Mais ça confirmait quelque chose que vous aviez en vous.
Ça confirmait quelque chose d'important. Donc, voilà. Donc, je suis rentré là-dedans. Et puis, bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement un texte qui aurait eu l'avantage de me donner raison contre Bourdieu, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais que c'était un texte qui est finalement replacé d'une manière complètement différente, justement, les rapports entre ce qu'on nomme l'esthétique et ce qu'on nomme la politique. Vous savez, il y a des gens qui disent que à un moment donné, je suis passé de la politique à l'esthétique. Bon, ce qui, évidemment, est une
vous,
critique.
Oui, en voilà. Travaillant d'abord sur le monde ouvrier, puis en travaillant sur votre concept que vous avez élaboré de partage du sensible. On va y revenir,
voilà.
Jacques Rancière. Mais pour vous, les deux sont liés. Ça... Expliquez-nous pourquoi Jacques Rancière, parce que je pense que c'est une bonne manière aussi de présenter aux auditeurs et aux auditrices ce qu'il y a dans ces lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller que vous avez choisi. Je précise juste qu'elles ont été publiées en 1795. On est au lendemain de la Terreur. Il y a 27 lettres. Elles sont adressées au duc d'Augustenbourg. Et dans ces lettres, Schiller revient sur ce que serait une éducation esthétique. Alors en quoi il y a un lien entre politique et esthétique dans ces lettres ?
Bon, alors il y a d'abord le lien, on peut dire, vous le dites, bon, c'est écrit au lendemain de la Terreur, donc en pleine révolution française, même si c'est le moment au début de la contre-révolution. Ce qui est intéressant, c'est quand même vraiment cette espèce de d'ancrage dans le moment, quoi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est dans l'analyse de Schiller, c'est que bon. La Terreur, tout ça, c'est pas simplement le déchaînement un peu des gens du peuple, des tricoteuses, et ainsi de suite. Non, la Terreur, c'est quoi ? Au fond, c'est la conséquence de la volonté, d'introduire directement une sorte d'ordre rationnel. Quoi. Au fond, la Terreur, c'est quoi ? C'est la raison qui veut régenter directement le monde. Quoi. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est ce que Schiller appellera l'instinct formel, à savoir au fond la volonté en quelque sorte de la raison, s'étendre, de régenter, de gouverner le monde, et qui s'installe dans une espèce d'opposition radicale, à savoir il y a d'un côté la raison et puis de l'autre la sensibilité, d'un côté la connaissance, de l'autre côté l'expérience brute, Schiller voit dans l'échec de la Révolution française son devenir terroriste, la conséquence de cette espèce de dualisme et de volonté qu'on pourrait dire impérialiste de la raison. Ce qui est intéressant, c'est que on y reviendra sans doute. Bon, c'est quand même l'époque où on discute beaucoup sur les sauvages. Est-ce que les sauvages sont bons ou pas bons ? Ou est-ce que l'humanité s'éloigne de la sauvagerie ? Ou est-ce que au contraire, elle reste marquée ? Et ce qui est intéressant, c'est que Schiller met en quelque sorte en parallèle deux perversions, quoi, ou en tout cas deux limitations. D'un côté, la sauvagerie, à savoir finalement le monde de la sensibilité qui n'est pas encore émancipée, quoi. Et puis, d'un autre côté, la barbarie. Et la barbarie, c'est quoi? La barbarie, c'est justement la barbarie de la raison. C'est la barbarie de la volonté qui veut imposer sa raison, ses lois au monde. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que, cette idée, bon, cette idée du règne de la loi, ça a quelques conséquences, cette espèce de répression de la sensibilité, de la matérialité par la raison, c'est proprement que la raison se pose comme ce qui supprime les individus, les individus physiques, matériels, sensibles.
Et quoi. Ça, c'est ce que Schiller, en fait, si Schiller écrit ses lettres, Jacques Rancière, c'est parce que précisément, il ne supporte pas ce règne de la loi. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, on ne peut pas se contenter juste de vivre uniquement en suivant notre nature sensible, collée à la matière et aux sensations. Et d'un autre côté, ce règne de la raison est absurde. D'ailleurs, il le dit dans la cinquième lettre. Il dit que chez les classes policées, c'est presque un spectacle encore plus repoussant parce que le règne de la raison en vient tout autant à asservir et à soumettre les hommes.
Oui, non, bien sûr. Bon, il faut bien voir encore une fois tout le contexte. Il y a le contexte de la Révolution française, mais il y a aussi, bien sûr, le contexte, disons, de la pensée économique, le contexte des visions du travail. C'est-à-dire que bon, Schiller, c'est quelqu'un qui a lu Kant, on y reviendra évidemment de très près, mais qui a lu Rousseau, mais il a certainement aussi lu Adam Smith. Et là, on est à cette époque où, en quelque sorte, oui, la raison prend en quelque sorte aussi la figure effectivement de l'État terroriste, quoi, de l'État qui veut imposer la raison, mais aussi la figure, au fond, de la raison à la conquête du monde sensible. À la conquête du monde sensible, sur le mode précisément de l'expansion économique, de la satisfaction sans limite des besoins.
Ah oui, de la consommation, ce qu'on va appeler la consommation.
C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que, d'une certaine façon, mais même si c'est pas évidemment... Dans les termes de Schiller, le monde de la consommation, c'est pas simplement le monde des instincts matériels, populaires, un peu bas. C'est aussi finalement le monde d'une certaine forme de raison qui part à la conquête du monde et qui finalement transforme en quelque sorte le monde en un objet d'utilité. Quoi. Ce qui est important, il faut toujours se souvenir, c'est justement que qu'est-ce qui va caractériser ce que Schiller appellera esthétique, c'est la capacité de se séparer de l'utilité, quoi. Se séparer de l'utilité, d'avoir comme une espèce de, on pourrait dire, comme de regard, en quelque sorte, donc ce fameux regard désintéressé de Kant sur le monde, ce qui est la capacité se mettre en face d'une forme. Bon, il y a ce texte célèbre de Kant, dans l'analytique du beau, dans la critique de la faculté de juger, quoi. Voilà, il y a l'individu qui est... Enfin, l'individu supposé, bien sûr, qui est en face de la façade d'un palais, quoi. Bon, et alors Kant explique tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un jugement esthétique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, bien sûr, considérer la majesté, y compris sous une forme critique, en disant « Ah, c'est la demeure des riches », et ainsi de suite. Pas non plus considérer la chose comme le résultat d'un travail d'architecte. Non, on n'est pas devant une forme qu'on a à juger du point de vue de la connaissance, c'est-à-dire en quelque sorte en vérifiant l'adéquation de la chose à son concept, ni du côté de la sensibilité, en disant ah, ça c'est magnifique, ou c'est répugnant, c'est le séjour des riches, et le peuple disons a sué, etc. pour construire ça. Donc il y a cette espèce de ces deux pages tout à fait au début de l'analytique du mot. Un texte, bon, je crois qu'il y a un côté complètement fondateur, et encore une fois fondateur par rapport à ma propre expérience, quoi, à savoir cette idée d'un regard qui ne regarde plus une chose comme un objet de connaissance, qui ne regarde plus non plus une chose comme un objet de désir, qui ne regarde plus non plus comme en quelque sorte une idée bien réalisée, qui est simplement devant et qui a le sentiment que quelque chose de sa liberté est en jeu, précisément de cette espèce d'absence de rapport. Ça c'est quelque chose, évidemment, là c'est vraiment l'anti-Bourdieu, on peut dire.
Oui, parce qu'on n'est pas là à juger effectivement une œuvre par rapport à ses conditions de création, que ce soit des qualités inhérentes propres à l'œuvre, par rapport à l'artiste, par rapport à la représentation, au mimétisme, ni par rapport en fait au lieu, on pourrait dire, où il a été créé, au lieu sociologique. C'est pas ça qui intéresse. C'est que vous nous dites, Jacques Rancière, et c'est une intuition que vous avez eue et qui a été confirmée par Schiller, que quand on est face à une œuvre d'art, quelque chose de désintéressé se joue, on regarde cet objet autrement et se produit, voilà, quelque chose d'esthétique qui va être politique. Mais moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, Jacques Rancière, en quoi ce regard-là a quelque chose de politique malgré tout, alors que justement, on a l'impression qu'on est déconnecté du réel quand il se passe cette rencontre avec l'œuvre.
Bon, alors... ce qui est important, il y a deux choses. Il y a le contexte révolutionnaire, il y a ce que pense Schiller, il y a ce que moi j'ai pu en faire aussi, quoi. L'important, c'est qu'au fond, il y a une expérience de liberté qui est une liberté non oppressive. Au fond, le problème de la terreur, c'est la liberté oppressive. C'est-à-dire la liberté qui veut s'imposer, quoi. Et donc, pour l'expérience de la forme en face de soi, qui n'est pas forcément une œuvre d'art, ça peut être aussi un paysage, hein, par exemple. Oui. C'est comme l'époque aussi, le paysage joue un très grand rôle. Et chez Kant, finalement, la beauté, c'est plus souvent la beauté naturelle que la beauté d'une œuvre d'art. Donc voilà, tout d'un coup, on fait l'expérience de quelque chose par devant quoi on est entièrement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun critère, et aucun critère qui s'impose pour la juger. Et en même temps, bon voilà, on n'est intéressé en rien, quoi. Et ça veut dire quoi? Disons une liberté qui justement sort à la fois peut-être de la dépendance mais aussi de la volonté d'opprimer, quoi. Et bon, c'est politique en ce sens-là, c'est aussi, on peut dire, politique au sens où tout d'un coup on a une forme d'expérience qui est accessible à tous, quoi. Ça, c'est, on y reviendra, ce qu'il dit notamment dans les dernières lettres où justement au fond il est question du sauvage. Bon, là, c'est bien sûr l'époque où on discute beaucoup sur les sauvages, oui, sur leurs vertus ou sur leurs limites, quoi. Et ce qui est important chez Schiller, c'est ce moment où finalement le sauvage accède à une espèce d'intérêt pour la libre apparence, le moment où finalement il cherche en quelque sorte à se saisir des choses non plus comme instrument d'utilité mais simplement parce qu'elles sont belles. Il cherche lui-même à plaire, il cherche lui-même, au fond, à se donner une apparence. Voilà, c'est. Donc, au fond, l'idée que, contrairement, évidemment, à toute une espèce de tradition sociologique qui s'est créée depuis, l'apparence a quelque chose d'égalitaire. C'est-à-dire, à savoir que c'est quelque chose qui est également possible pour tous. Donc, voilà, disons que.
C'est là où c'est politique.
C'est politique au sens où, au fond, c'est comme l'expérience d'une autre liberté. L'expérience d'une autre égalité, quoi.
On va écouter un extrait de la 15e lettre de Schiller, de ses lettres sur l'éducation esthétique, où on entend justement ce qui se produit lors de cette expérience esthétique, et c'est notamment, ouvrez bien l'oreille, face à la Junon Ludovici, qui est donc une statue.
L'homme ne joue que là où dans la pleine acception de ce mot il est homme. Et il n'est tout à fait homme que là où il joue. Cette affirmation n'est inattendue qu'au regard de la science. Elle était, il y a longtemps déjà, vivante et agissante dans l'art et dans le sentiment des Grecs, chez les plus distingués d'entre leurs maîtres, à ceci près qu'ils transféraient dans l'Olympe l'idéal qui devait être réalisé sur la terre. Ce ne sont ni la grâce ni la dignité qui nous parlent dans le visage superbe d'une Junon Ludovici. Ce ne sont ni l'une ni l'autre, car ce sont toutes deux ensemble. La divinité, aux traits de femme, réclame notre adoration, cependant que la femme, semblable à la divinité, enflamme notre amour. Mais pendant que, ravis, nous nous abandonnons à son charme céleste, sa suffisance céleste nous effraie. Toute sa personne se fonde en elle-même et y a sa demeure. Elle est un monde complètement fermé. Comme si elle était au-delà de l'espace, elle ne s'abandonne ni ne résiste. Il n'y a pas là de force qui serait en lutte avec d'autres forces, ni de défaut par où le temps pourrait faire irruption. Nous sommes irrésistiblement saisis et attirés par son charme, maintenus à distance par sa suffisance. Nous nous trouvons simultanément dans l'état de suprême repos et dans celui de suprême agitation. Il en résulte la merveilleuse émotion pour laquelle l'intelligence n'a pas de concept ni la langue de nom.
Extrait de la 15e lettre sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, lue par Nicolas Berger. C'est une traduction de Robert Leroux. Vous nous avez indiqué, Jacques Rancière, cette lettre en particulier et ce moment de l'expérience esthétique face à cette statue Junon Ludovisi. Est-ce que vous-même, vous avez expérimenté, vous avez reproduit cette expérience esthétique face à cette même statue ?
Écoutez, la statue, je l'ai vue beaucoup plus tard. je l'ai vue beaucoup plus tard, donc je savais ce qu'il fallait ressentir devant.
Oui, c'est ça. Donc ça vous a presque un peu neutralisé, non ? Ça a empêché justement ce désintérêt, cette spontanéité de l'expérience esthétique.
Oui, bon, disons, enfin, j'étais content de la voir, mais j'ai dû la voir effectivement il y a peut-être 5 ou 6 ans.
Ah oui.
Par conséquent, il y a tout.
Presque 40 ans après la découverte de ce texte.
Oui, ou presque. Enfin, donc voilà, donc disons, il y avait aucune virginité en quelque sorte de l'expérience sensible qui était en jeu dans l'affaire. Même si j'étais bien sûr content de la voir, mais en revanche, bon, j'ai eu effectivement ce choc, en lisant ces pages, pourquoi ? Parce que finalement, d'une certaine façon, elles ont un caractère complètement crucial pour toute la pensée esthétique, quoi. D'abord avec ce concept de jeu qui est un concept tout à fait étonnant, mais en même temps, on voit bien d'où il vient, à savoir, il vient de Kant. Kant parle précisément du jugement esthétique comme finalement le lieu où s'opère le libre jeu du rapport entre les facultés, l'entendement, l'imagination, quoi. Oui. Alors, bien sûr, ce libre jeu, qui est un concept qu'on peut dire transcendantal, Schiller lui donne une espèce d'épaisseur, en quelque sorte, sensible, et notamment, bon, puis là, un peu plus haut dans le texte, il y a cette référence aux Jeux Olympiques, à savoir le peuple, justement, qui se manifeste, mais justement, pas comme peuple conquérant, pas comme peuple cruel, mais comme peuple qui joue. Qui joue, c'est-à-dire qui précisément, au fond, ne donne plus à son activité aucune fin déterminée, sauf une espèce de fin d'auto-affirmation. Quoi. Qu'est-ce qui est important dans le jeu ? Qu'est-ce qui est capital ? C'est que le jeu, dans cette pensée-là, le jeu est ce qui supprime, on peut dire, toutes les formes, toutes les oppositions traditionnelles, à savoir, il n'y a pas l'entendement et la sensibilité, il n'y a plus non plus l'activité et la passivité, il n'y a plus la forme et la matière.
Il n'y a plus non plus les dominants et les dominés, c'est-à-dire que ces mécanismes-là disparaissent.
Tout est
rejoué à chaque fois.
Oui, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, on peut dire que traditionnellement, jusque-là, bon, on peut dire que dans une certaine vision de l'art, la vision de l'art, c'est quand même l'œuvre d'art, c'est quelque chose où un artiste, donc une volonté, impose une forme à une matière. Et c'est ce schéma que Schiller va complètement, en quelque sorte, mettre de côté, quoi. À savoir, fondamentalement, qu'est-ce qui caractérise justement l'œuvre, c'est proprement l'égalité. C'est le fait qu'il n'y a plus aucune forme de domination, quoi. Et justement, c'est là où il y a comme une espèce d'équivalence entre ce qui concerne l'expérience d'un individu en face d'une statue et ce qui concerne aussi, on peut dire, un peuple tout entier, quoi. C'est-à-dire que les Grecs, c'est bon, bien sûr, on est un peu dans la mythologie au sens moderne du terme, la vision un peu grandiose, quoi, des Grecs comme le peuple de la liberté, mais justement la liberté qui n'est pas la liberté conquérante par les armes.
Mais c'est quoi comme forme de liberté alors qui est en jeu ? Parce que quand Schiller nous dit, Jacques Rancière, l'homme n'est homme que dans le moment où il joue, ça veut dire quoi ? Être un homme, être humain dans ce sens-là, ça veut dire être libre, être à égalité, être... C'est quoi la définition d'être un homme pour humain ?
La définition de l'humanité, d'une certaine façon, il y a plusieurs types de définitions, plusieurs possibilités de définir, mais disons, être homme, c'est être en quelque sorte en possession, on peut dire, de toutes les capacités, sans qu'aucune impose.
Être rationnel sans avoir un primat de la raison, être dans l'imagination sans qu'il y ait les sensations qui nous étouffent et qui dominent le tout, c'est ça.
C'est ça, c'est-à-dire fondamentalement, donc, être dans cette espèce d'état, on peut dire, effectivement, d'égalité, en quelque sorte, où il n'y a plus aucune puissance qui domine, quoi. Disons, dans le texte, un peu plus dans cette 15e lettre, justement, le peuple grec, le peuple des Jeux Olympiques, le peuple qui joue, finalement, qui est dans une simple espèce d'auto-affirmation, on peut dire, de sa liberté, ça s'oppose au peuple romain, c'est-à-dire, les combats des gladiateurs. Les combats des gladiateurs, en quelque sorte, c'est la fête où la fête consiste à éliminer l'autre. l'autre, quoi. Alors ça, c'est bon, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Au fond, cette espèce d'idée de, au fond, que disons l'idéal de la raison, qui est, c'est quand même le grand truc du XVIIIe siècle, ne sera réalisé que précisément au moment où il y aura plus une espèce de puissance justement rationnelle qui viendra opprimer une puissance sensible irrationnelle. Donc par conséquent, bon, c'est il n'arrête pas d'insister là-dessus. Il faut à la fois que l'instinct sensible nous passivise au maximum, c'est-à-dire nous ouvre en quelque sorte au maximum aux sensations, et en même temps que de son côté, on peut dire que l'instinct rationnel affirme son pouvoir dans son domaine. Et au fond, ce qui est l'instinct de jeu, c'est précisément celui qui va neutraliser les oppositions et en même temps manifester une espèce de capacité proprement humaine, mais en même temps une capacité qui est quelque chose que, bien sûr, qui après ça doit être exercé, doit être,
c'est-à-dire que... Il ne s'agit pas juste de se contenter d'être face à la Junon.
Non, absolument.
De la regarder et puis de se dire... Qu'est-ce qu'on se dit d'ailleurs, en fait? Parce que très concrètement, Jacques Rancière, moi je me suis beaucoup questionnée sur le type d'expérience. Par exemple, je vois cette Junon, et si je ne ressens rien? Et s'il ne se passe rien? Est-ce que ça se passe que devant des objets d'art? Pas forcément, il y a aussi les paysages, mais est-ce que ça peut se passer devant du moche? Est-ce qu'il faut que ce soit beau? Est-ce que je peux avoir une expérience esthétique en dehors d'un musée, en dehors de la nature? Est-ce que ça, vous avez réussi à résoudre ces problèmes-là? Et puis parfois, est-ce qu'en fait, je devrais ressentir quelque chose? Je ressens rien, il se passe rien. Qu'est-ce que j'en déduis? Que je suis pas humaine, non?
Bon, j'en déduis que je dois faire encore un effort, comme dirait l'autre, pour devenir humain ou humaine, quoi. Ça revient un petit peu à ça. Non, mais ce qui est important, je crois, c'est vraiment cette espèce d'expérience, je dirais, de la suppression de toute forme d'autorité. Ce qui est remarquable, quand même, cette histoire, c'est la Junon, quoi. D'autant plus que, en fait, bon, apparemment, il semble qu'elle a été sculptée à partir d'une femme romaine qui existait vraiment et qui était la fille de Marc-Antoine, donc malgré tout un homme de pouvoir, quoi.
Oui.
Mais ce qui est important, c'est que cette espèce d'image, voilà, elle ne cède pas, elle s'impose pas, elle ne cède pas. Bon, cette image quand même tout à fait étonnante d'un dieu qui ne fait rien et ne veut rien, quoi. C'est quand même étonnant.
Et d'ailleurs, c'est dit, toute sa personne se fonde sur elle-même, c'est dit par Schiller, là je cite la lettre 15, « Et il y a sa demeure, elle est un monde complètement fermé ». Alors, autre question qui va dans le sens de celle que je vous posais, Jacques Rancière, c'est que c'est un monde qui est complètement fermé, mais qui néanmoins est offert au spectateur, nous est offert. C'est-à-dire que, voilà, quel type de relation on entretient dans cette expérience esthétique face à une œuvre qui est complètement fermée, qui est aussi d'un autre temps, hein. Cette tête colossale en marbre, elle date de l'Antiquité, du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, enfin, qu'est-ce qu'elle a? Voilà, comment elle peut nous parler finalement?
Comment elle peut nous parler? Il y a bien des manières dont elle peut nous parler. En même temps, ce qui est important dans l'idée de l'œuvre complètement fermée, c'est qu'aussi, là, cette analyse, elle réfute aussi une certaine idée de l'œuvre d'art, bon, qui a été très répandue sous le nom de modernisme, à savoir l'œuvre d'art complètement autonome, l'idée que la modernité artistique, c'est l'œuvre qui est complètement autonome, fermée sur elle-même. Bon, c'est une idée qui est encore court, pas mal. Or, justement, Schiller nous met devant une espèce de complétude, mais qui est précisément pas encore une fois une complétude autoritaire, à savoir que précisément cette tête, qu'est-ce qui est important, c'est précisément qu'elle est elle est pas seule, d'une certaine façon elle porte un monde en elle, quoi. Et bon, et bien sûr, ça se lie aussi à cette espèce de vision de la Grèce à l'époque, qui remonte à Winckelmann, à savoir qu'au fond la statue en quelque sorte contient la liberté d'un peuple. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est ce moment, le XVIIIe siècle, et ça commence avec l'histoire de l'art antique de Winckelmann, où on se met à dire, mais une œuvre d'art, c'est le produit d'un peuple. Et au fond, la beauté d'une statue, c'est proprement la beauté d'une forme de vie, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire savoir la beauté de la statue.
C'est là où il y a une autre dimension politique.
Oui, exactement, c'est-à-dire que bon, la liberté, c'est aussi la non-séparation. La non-séparation, c'est un terme, peut-être un thème qui est revenu un petit peu à la mode de nos jours, et notamment à travers certaines théories comme celle de Tony Negri, par exemple, cette idée de la non-séparation. Mais la liberté, c'est d'abord, une forme de vie dans laquelle il n'y a pas justement une séparation, dans laquelle justement on n'est pas, pris entre l'activité économique, l'activité politique, le musée, et ainsi de suite. Bon, l'œuvre, effectivement, elle est le témoignage d'une forme de vie. Elle appartient à une forme de vie. Et bon, au lieu d'être simplement quelque chose qui appartient au monde de l'art et qui est enfermé.
Alors si je récapitule bien, si j'ai bien compris, Jacques Rancière, voilà, l'expérience esthétique et politique, en cela qu'elle est débarrassée justement de toutes les oppositions qu'on a entre la raison, la matière, la sensibilité, elle est ouverte à tous, c'est un lieu d'égalité, c'est-à-dire que tout à coup on peut tous être dépouillés de ce regard et se retrouver face à cette œuvre d'art. Et puis il y a aussi ce principe que vous venez d'énoncer de non-séparation, elle porte un monde, elle n'est pas là, elle ne revient pas avec des catégories ou des binaires. On pourrait dire aujourd'hui, quel est le lien à partir de ces trois caractéristiques politiques avec votre concept que vous avez forgé de partage du sensible, Jacques Rancière ?
Bon, le lien, c'est que finalement, les liberté, servitude, égalité et inégalité, ce sont pas simplement, disons, des notions liées à des formes de domination institutionnelle, État ou autre, mais que ce sont véritablement des formes de l'expérience sensible. Qu'est-ce que c'est le partage du sensible ? Je dirais, c'est la manière dont l'égalité ou l'inégalité sont présents déjà en quelque sorte dans le découpage des formes d'expérience sensible. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de ces ouvriers qui ne devraient s'occuper que font affaires d'ateliers, de travail, éventuellement de lutte, et qui se mettent à s'occuper de ce qui est pas leur affaire, quoi. Je suis toujours revenu à cette espèce de texte qui pour moi est fondateur, même si fondateur on peut dire négativement, qui est ce petit extrait de la République, donc de Platon, quoi, où il dit qu'il faut que l'ouvrier soit tout le temps à son atelier parce que le travail n'attend pas. Le travail n'attend pas. Bon, ce qui est évidemment, ce qui est intéressant, c'est que cette espèce, en quelque sorte, de mise en équivalence d'une espèce de nécessité physique et puis d'une nécessité ou d'une espèce d'ordre qui est pas simplement institutionnel, qui est vraiment symbolique, à savoir parce que y a des gens qui doivent être à un lieu donné. Parce que ces gens-là sont voués à une activité donnée, et donc ils doivent avoir aussi une espèce de d'identité qui correspond à ça. C'est pour moi, c'est ce qui fait le lien entre Platon disant le travail n'attend pas, donc il faut qu'il soit à l'atelier, il faut pas qu'il s'occupe d'autre chose, quoi. Et puis pour moi, effectivement, Bourdieu qui dit il faut pas que les ouvriers s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'approprier ce qui est la culture distinguée des bourgeois, c'est pas possible, quoi. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est précisément la manière dont des ouvriers franchissaient cette espèce de lignes supposées de l'impossible. Donc le partage du sensible, c'est ça, c'est-à-dire la manière en quelque sorte dont se construit ou se déconstruit une certaine forme de rapport entre des manières de percevoir, des manières de dire, de penser, des manières de faire, quoi. Donc au fond, qu'est-ce qui est important? Mon livre La Nuit des Prolétaires commence avec une petite phrase d'un texte ouvrier sur l'image de l'ouvrier, l'image glorieuse de l'ouvrier, comme ça, le forgeron, etc. Mais il dit oui, c'est très bien, mais moi j'aurais voulu être peintre. C'est-à-dire précisément, j'aurais voulu en quelque sorte basculer de l'autre
de
côté.
Celui qui représente,
mais aussi celui qui a un autre usage de la main, quoi. Ce qui est important, c'est cet usage de la main et du regard. Au fond, l'idée que un destin social, mais aussi la lutte pour ce destin, ça se joue là-dessus, quoi. Donc je parlais de ces textes, donc du menuisier Goni. Il y a cette espèce de description de la journée de travail qui a l'air d'être une espèce de récit, simplement, voilà comment se passe ma journée, mais c'est pas du tout ça en réalité. Il recrée sa journée de travail, et notamment dans cette recréation, il y a ce moment où l'ouvrier tout d'un coup arrête son bras et se met à regarder par la fenêtre. Et regardant par la fenêtre, nous dit Goni, en quelque sorte s'emparer de la perspective dont ne jouissent, ne peuvent même pas jouir les riches propriétaires des immeubles qu'ils sont en train de contempler. Voilà, c'est ça. Le reportage du sensible, c'est un petit peu ça. On a une manière d'être dans le temps et dans l'espace, de percevoir et de ressentir. Et puis, il y a la possibilité justement de rompre ça. Et d'une certaine façon, le commencement, c'est de rompre ça. Donc, c'est ce que j'ai perçu.
Mais de rompre ça de manière non pas volontaire, par des lois, par des dispositifs culturels, par des musées, mais voilà, vraiment quelque chose de l'ordre de presque qui nous tombe dessus.
Absolument. Je veux dire, ce qui est, moi, ce qui est un, je dis que j'étais, je suis toujours très très sensible précisément à, bon, à ce qui nous tombe dessus, le hasard, la contingence.
Mais c'est vrai que le hasard, vous l'avez dit, est important pour vous.
Ah oui, absolument. D'ailleurs, bon, effectivement, je l'ai dit, bon, ce livre-là, je suis tombé dessus par hasard.
Vous avez eu de la chance que nous, on a mis beaucoup de temps. Je pense qu'on a eu le dernier exemplaire de Paris avec Manon de la Salle.
Ben voilà, mais c'était l'époque, effectivement, il y avait un tas de livres qui traînaient comme ça. Voilà, vous pouvez maintenant, il n'y a plus tellement de livres qui traînent.
C'est vrai. On va écouter un autre extrait de ces lettres. C'est la toute dernière lettre, la 27e.
Enchaîné au monde matériel, l'homme ne fait pendant longtemps qu'utiliser l'apparence à ses fins. C'est ensuite seulement qu'il lui accorde, dans le domaine de l'art idéal, une personnalité propre. Pour qu'il en vienne là, il faut que ce soit accompli, dans toute sa manière de sentir, une révolution totale, sans laquelle il ne se trouverait même pas sur la voie qui mène à l'idéal. Lorsque donc nous découvrons chez lui des traces d'une appréciation libre et désintéressée de la pure apparence, nous pouvons en conclure qu'un bouleversement de cet ordre s'est produit dans sa nature et que son humanité a, à proprement parler, commencé. Or, des traces de ce genre sont véritablement déjà sensibles dans les premières tentatives rudimentaires qu'il consacre à l'embellissement de son existence, au risque même de la détériorer dans son contenu matériel. À partir du moment où, d'une façon toute générale, il s'est mis à préférer la forme à la matière et à risquer la réalité pour l'apparence, une brèche est ouverte dans le cercle de sa vie animale et il est engagé dans une voie sans fin. Il ne se contente plus de ce qui a suffi à la nature et de ce que le besoin réclame. Il demande du superflu. Dans la mesure où il amasse seulement des réserves en vue d'un usage futur et où par avance son imagination en jouit, il dépasse bien le moment présent, mais sans sortir des limites du temps en général. Il jouit davantage, mais il ne jouit pas d'une autre manière. Dans la mesure où, au contraire, il incorpore la forme à sa jouissance et où il est attentif au dehors des objets qui satisfont ses désirs, il n'a pas seulement accru l'étendue et le degré de sa jouissance, il en a aussi ennobli l'espèce.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Lettre sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, lue par Nicolas Berger dans la traduction de Robert Leroux. Vous avez aussi choisi, vous nous avez indiqué cette lettre-là aussi, Jacques Rancière. C'est la toute dernière. On a parlé de ce que voulait dire l'humanité pour Schiller. On a parlé de cette idée de révolution. Mais pourquoi une révolution totale? Et avec ce paradoxe, puisqu'on vient d'en parler, Jacques Rancière, qui est que quand on a une expérience esthétique, elle est presque avant toute décision, elle nous tombe dessus. Alors comment on peut impulser une révolution totale, contribuer au bonheur de l'humanité sans le décider, et puis même, en fait, j'ajoute ça, de manière passive, face à une œuvre close sur elle-même?
Encore une fois, bon, l'œuvre, c'est pas l'œuvre qui est close sur elle-même. D'une certaine façon, c'est la forme qui est en face oui. de vous, qui finalement vous parle précisément parce que vous n'aviez rien à obtenir d'elle. Ce qui est quand même quelque chose d'assez différent. Oui, non, mais ce qui est important justement, c'est que bon, il y a quelque chose comme on pourrait dire comme une aporie, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que l'expérience esthétique? C'est l'expérience au fond d'un homme qui est en possession de, enfin, je peux dire justement de toutes ses capacités. C'est-à-dire qui a toute possibilité, c'est-à-dire et en même temps donc est au fond un espèce de stade où il y a plus de domination, c'est le stade où il est plus l'individu isolé un petit peu face à l'État ou à l'universel de la philosophie, de l'État, de la science, etc. Donc voilà, il y a ce moment que Schiller nous décrit comme essentiel. Alors ce moment, est-ce qu'on peut le vouloir? Bon, c'est effectivement, oui. c'est tout le problème. C'est ce qui est intéressant justement, c'est que bon, Schiller nous parle de l'état esthétique. Alors état, en français, bon, souvent qu'il y a un petit e ou un grand e, ça traduit soit l'état au sens de la situation, la condition, etc., ou soit l'état, à savoir la puissance
qui nous écrase,
la puissance globale, non pas forcément la puissance qui nous écrase, mais la puissance du collectif. Quoi. Alors bon, on peut dire que on est un petit peu dans cette espèce d'indécision en quelque sorte, finalement sur ce que veut dire Schiller, parce qu'il parle de l'état esthétique et en même temps il dit bon, ça doit rester quelque chose comme un idéal, un peu comme l'idéal de la raison, mais un idéal qu'il faut arriver à cultiver en quelque sorte. Bon, ce qui est intéressant en même temps, c'est que c'est quand même ce texte qui, en quelque sorte, se termine un petit peu sur une énigme, est un texte qui va avoir quand même une importance qu'on a, nous, oublié, parce que finalement, on pense l'art, l'esthétique, l'histoire de l'art, la modernité, selon d'autres catégories, quoi. Mais bon, c'est quelque chose qui est décisif en réalité, cette espèce d'idée, en quelque sorte, comme une espèce de condition, de quelque sorte, de plénitude sensible, de capacité, comme condition, finalement, de toute forme de liberté collective, quoi. Alors, c'est quelque chose qui va devenir important, parce que c'est quand même repris, justement, par tous les gens qui, à l'époque, bon, lisent Schiller, comme Derlin par exemple, bon, reprend cette idée d'une espèce de révolution de la manière de sentir, quoi. Et bon, et effectivement...
Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, selon vous? C'est-à-dire vraiment cette dimension sensorielle comme matière, comme début d'une révolution politique. Est-ce qu'on est encore là-dedans? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'art avec des messages politiques qui doit convaincre? Voilà, quand on interroge un écrivain, un artiste aujourd'hui, on leur demande souvent « qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» On devrait peut-être pas leur poser la question d'ailleurs, parce qu'en fait l'œuvre devrait parler d'elle-même. Mais vous voyez, est-ce qu'on est encore là-dedans, dans cette sensibilité qui peut révolutionner le sentir qui révolutionne la politique?
Bon, je pense qu'on est, on est toujours dans une espèce de tension, quoi. Ce qui est important, c'est une révolution sensible. Elle a joué un rôle quand même considérable historiquement. On voit bien que c'est quelque chose qui se joue, par exemple, au moment de la révolution russe, justement. Au fond, il y a toute une série d'artistes, qui disent maintenant, ils ont l'importance, c'est proprement la révolution des formes du monde sensible. En même temps, c'est vrai que cette révolution des formes sensibles, d'une certaine façon, ils en font quelque chose comme un projet qu'il faut réaliser un peu autoritairement, quoi. C'est-à-dire, voilà.
Oui. On en revient à la même problématique de la terreur.
On est toujours dans cette espèce de tension et au fond, il y a quelque chose comme une abolition de la volonté, qui est quelque chose comme la condition de toute réussite en quelque sorte, une sorte de projet en quelque de projet de monde, bah, de monde libre et égal, pour le dire vite, quoi. Alors bon, c'est une tension bien sûr qui a jamais été résolue. Bon, d'un côté il y a l'art, la littérature qui donne des messages. D'un autre, d'autre côté, bon, il y a l'art et la littérature dont on dit qu'ils sont des activités en elles-mêmes, etc., autonomes, autotéliques, Alors, d'une certaine façon, voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a une espèce de nœud qui est constitué à cette époque par Schiller, qui a une importance historique considérable, qui aura une importance considérable sur les artistes, sur tous ces artistes qui vont constamment dire le problème, c'est proprement l'art comme forme de vie, quoi. C'est proprement la transformation d'une forme de vie, pas simplement d'accrocher des choses sur des murs. Cette phrase célèbre, enfin, que je cite à peu près de Malevitch, quoi, qui dit que bon, voilà, on fait plus des œuvres d'art, on fait plus des tableaux, mais on crée des formes de vie, quoi. En même temps, ça veut dire ça recrée de l'autoritaire et ainsi de suite. Et alors, oui, je crois qu'on est tout le temps un petit peu dans cette espèce de tension. Ben, si on pense à l'art conceptuel, l'art conceptuel, précisément, c'est l'art qui dit on va plus rien accrocher au mur, mais on va faire quoi? Malgré tout, des démonstrations. Quand on va utiliser des formes sensibles pour faire des démonstrations. Ce qui est intéressant en même temps, c'est dans le développement de l'art conceptuel, très très souvent, bon, ce qui était simplement, je dirais, de l'illustration, prend la puissance en quelque sorte aussi d'une espèce d'existence sensible qui est en face de vous, quoi. Donc là, il y a une tension qui est assez intéressante, finalement, même dans le destin de l'art conceptuel, entre la volonté de prouver quelque chose. Maintenant, je crois que plus personne ne croit beaucoup que l'art prouve quelque chose, quoi.
Ah oui?
Plus tellement, non, ou enseigne quelque chose, quoi.
Oui, l'art n'est plus là pour instruire, c'est ça. On n'attend pas de l'art qui nous... Oui, mais alors...
Et en même temps, les artistes continuent à le penser très souvent. Bon, j'ai essayé de...
Puis il y a l'idée quand même de la fusion, parfois, ou la confusion entre art et culture. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'idée de cultiver, d'exercer quelque chose, d'apprendre quelque chose. Ça, parfois, cette frontière, elle est un petit peu ténue.
Oui, non, bien sûr. Je veux dire, c'est sûr qu'on est dans cette espèce de tension qui est absolument permanente et qui repose sur cette espèce de contradiction, finalement, de la manière dont la passivité peut se transformer en activité. Donc, finalement, en quelque sorte, vraiment, le fait de la démission de toute volonté.
Oui.
Peut produire quelque chose comme une espèce de monde libre. Alors effectivement, c'est
contre-intuitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense quand même qu'il faut, enfin aujourd'hui ou même de manière générale, pour impulser quelque chose, on pense quand même qu'il faut prendre une décision, qu'il y a un vouloir, que la volonté rentre en compte.
Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, cette contre-intuition, il faut en maintenir la force, quoi, je veux dire, cette contradiction, je pense que il faut en maintenir la force, et effectivement, ce texte est un texte qui, à une époque, a pu servir en quelque sorte de guide pour tous ceux qui ont dit, voilà, l'art a été une forme de vie, il doit le redevenir, c'est quand même le grand projet des avant-gardes, disons, du début du XXe siècle, quoi. Bon, effectivement, on peut dire que ce projet, bon, il a échoué parce que, il a échoué aussi parce que, disons, les dirigeants politiques avaient une autre idée de la manière dont il fallait révolutionner le monde. Mais en même temps, ça continue en quelque sorte bon, à nous hanter. Bon, c'est bien aussi d'avoir des textes qui continuent à vous hanter. Ils continuent aussi à vous hanter à cause de leur aporie.
Oui. Est-ce qu'il y a un côté, dernière question, Jacques Rancière, un petit peu utopique dans le projet? Vous avez parlé d'un idéal, comme d'un idéal de la raison chez Kant, c'est-à-dire que cet idéal de révolution totale chez Schiller. Mais vous voyez cet exemple voilà, de l'ouvrier qui tout à coup est saisi quand il regarde par la fenêtre, qu'il a la vue sur ces immeubles bourgeois que eux-mêmes ne pourront jamais regarder. Est-ce que on peut totalement se dépouiller malgré tout de ce qu'on a appris? Est-ce qu'on peut être totalement, vous avez employé le terme tout à l'heure de virginité, est-ce qu'on peut être totalement vierge? Est-ce qu'on n'est pas en fait complètement formaté? Est-ce que vous croyez encore quand même à une forme de virginité dans cette sensibilité, Jacques Rancière?
Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de virginité au sens de retour au début, une espèce d'expérience supposée d'être en face. Et pourtant, je dirais que pourtant il en reste quelque chose. C'est pas une question d'utopie, c'est-à-dire que on considère toujours l'utopie, c'est ce qui est pas possible, c'est l'impossible et ainsi de suite.
C'est le lieu à la fois le meilleur et le lieu impossible.
Oui, mais donc justement, ce qui est intéressant pour moi dans le regard en quelque sorte de l'ouvrier, qui est pas le regard qu'il devrait avoir, donc cette espèce en quelque sorte de transgression du rapport normal entre bon un cerveau, un regard, des mains. Pour moi, c'est ça qui est important. Ça, c'est pas l'utopie. Bon, à l'époque, il y a des socialistes qui créent des systèmes, etc. Or, l'utopie, c'est vraiment quelque chose comme une espèce d'adéquation, à savoir, voilà, au fond, il y a une espèce de ressemblance totale entre la pensée et la réalité, quoi. Or, justement, je dirais que l'expérience dont je parle, elle refuse, justement, cette espèce de transformation de l'idée en réalité sensible. Il y a précisément, en quelque sorte, insensible qui, disons, en sorte de vous transforme dans la mesure aussi où il vous résiste.
Tous les jours de la semaine sont vides sans le creux, mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Joyeux les dimanches, joyeux les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants, cette foule qui coule d'un air indifférent, cette foule qui marche comme un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Joyeux les dimanches, joyeux les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui effacent en brillant les soucis de la veille. Les dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serrements et de fleurs aux branches et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour eux tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne sont pas, mais qui veulent qu'on le croit, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire. Envirait notre bonheur, tout comme j'envie.
Je hais les dimanches de Juliette Gréco. Nous sommes vendredi, Jacques Rancière. Et cette chanson, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, donc je le rappelle, Lettre sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, dont l'œuvre vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment, voilà, vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, d'abord, pour moi, j'ai choisi un auteur, non pas que je n'aime pas, que je l'aime beaucoup, mais un auteur que je peux dire qui me résiste. Bon, donc j'ai choisi Gilles Deleuze, non pas du tout donc pour en dire du mal, pour dire que c'est un mauvais philosophe ou que je l'aime pas, mais comme exemple en quelque sorte, peut-être aussi un peu l'anti-Schiller, quoi, c'est-à-dire ouais. Que précisément, bon, Schiller, on s'installe, on est en phase devant cette statue qui ne veut rien, quoi, et puis, bon, disons, Deleuze, c'est absolument contraire, c'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de vitesse absolue qui s'instaure.
Vous voulez dire que les statues de Deleuze vous veulent des choses absolument, quoi?
Non, je veux dire tout qu'il y a toute statue, la statue, elle s'en va, quoi. Bon, figure, bon, la figure, justement, bon, Bacon, etc. La figure, elle s'en va, quoi. Et Deleuze, je dirais, c'est une pensée qui ne cesse pas d'accélérer, il y a, pour moi, dire qu'il me résiste, ça veut dire que bon, j'ai du mal à y rentrer. Bon, j'ouvre 1000 plateaux, je me retrouve avec cette guêpe qui se déterritorialise, qui se déterritorialise pour attirer la guêpe qui va déterritorialiser l'orchidée tout en déterritorialisant, retéritorialisant elle-même. Voilà, il y a quelque chose.
Mais déjà rien qu'à dire.
Voilà, il y a un truc qu'on n'arrive même pas à dire, quoi. c'est pire que l'allemand de Schiller, quoi. Non, mais ça, j'ai l'air de rire, mais je veux dire, voilà, j'ai une pensée en quelque sorte. On peut dire qu'on est dedans, on accepte d'être emporté, ou on dit, j'ai essayé d'y rentrer, mais bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec la guêpe et l'orchidée? Quand il nous dit que les rats sont des rhizomes, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et ainsi de suite. Et on voit bien que c'est du sérieux, on voit bien que finalement tout ça, c'est des métaphysiques. Il parle de rats, de loups, de guêpes, d'orchidées, mais en fait, tout ça, c'est du concept. Là, on est un peu... Voilà, il y a cette espèce d'impossibilité, en quelque sorte, d'entrée, moi, qui était pour moi le problème, en quelque sorte, comme si, pour entrer, il fallait accepter, en quelque sorte, une manière d'être sensible, disons, adopter un certain rythme que je peux pas adopter, quoi. Donc,
il fallait se mettre dans des dispositions précises pour entrer dans cette œuvre.
Oui, je pense qu'il faut l'avoir entendu. La plupart des Deleuziens sont des gens qui ont entendu Deleuze parler. Moi, j'ai jamais entendu Deleuze parler, sauf, disons, dans la conversation.
Attendez.
La conversation.
Ah oui, parce que quand même, vous avez été ensemble à l'université de Vincennes. Vous êtes contemporain. Vous avez travaillé sur des sujets proches, lui, sur le cinéma.
Bon, non, mais voilà, je veux dire que j'ai jamais assisté à un cours de Deleuze, par exemple.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a des gens, ça a transformé leur vie d'assister à un cours de Deleuze. Moi, non, je voulais. Bon, moi, j'étais censé être prof, donc voilà, non pas.
Vous n'alliez pas aller assister au cours d'un autre.
Non, voilà, j'aime. En plus, qu'il y avait déjà plein de monde et que c'était impossible d'y rentrer. Mais bon, peu importe, ça c'est d'anecdote. Non, ce qui est pour moi frappant, si vous voulez, c'est que, bon, lorsque Deleuze est mort, bon, il y a un certain nombre d'hommages qui se sont créés. On m'a demandé de parler de Deleuze, quoi. Et donc, il fallait entrer dans quelque chose dans lequel j'avais du mal à entrer, quoi. Alors, bon, j'ai pensé que c'était facile, à savoir, bon, je vais parler des choses dont il parle et que moi je connais, quoi. Bon, il a parlé beaucoup du cinéma, il a parlé beaucoup de littérature, bon,
L'esthétique,
ça,
en fait.
Ça va, oui, Proust, Melville, Rossellini, Hitchcock, ça va, je connais, je peux en parler, quoi. Et en même temps, je dirais que ça marche pas comme ça, parce que l'image-mouvement, l'image-temps, je vais voir que Hitchcock nous montre dans Vertigo, la ruine du schéma sensorimoteur, mais je dis, mais non, il y a quelque chose qui va pas, le fait que James Stewart se casse la jambe, ça brise pas le schéma sensorimoteur, donc c'est une métaphore, en fait, il prend, disons, en quelque sorte, un bout de film, comme comme métaphore d'une idée de la pensée. Mais en même temps, je me dis, mais ça veut rien dire, métaphore. Deleuze me dirait, mais métaphore, c'est quoi? Avec métaphore, vous supposez qu'il y a un rapport entre deux, vous supposez qu'il y a quelque chose dessous, une autre chose, mais c'est impossible, donc c'est du dualisme. Voilà, d'une certaine façon, voilà, j'essaye de parler, et à chaque fois, disons, je suis rentré là-dedans, et puis, disons, avec l'idée que, voilà, il fallait que j'en parle, que je trouve une voix, et en même temps, donc voilà, j'ai dit un tas de choses, et en même temps, je sais que je me dis, c'est idiot, finalement.
Bon, je vous arrête là-dessus, sur cet idiot. Merci beaucoup, Jacques Rancière. De vous, on peut lire Le Partage du Sensible et La Mésentente qui vient de reparaître tous deux, ils sont aux éditions La Fabrique. Pour lire Les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, vous pouvez peut-être encore les trouver aux éditions Aubier en version bilingue avec la traduction de Robert Leroux. Un grand merci à Manon Delasselle qui a trouvé ce texte, le dernier à Paris, Axel Dubois, à Nicolas Berger à la réalisation et à Grégory Wallon à la prise de son.